France Inter.
Salut, la Terre au Carré, c'est Alice de Sarzeau. Je rebondis juste sur la fin de votre émission de mardi, s'il existe des alternatives au tourisme colonialiste. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une communauté qui s'appelle le couchsurfing, littéralement le surf de canapé. Si vous avez une chambre d'amis ou un bout de canapé, proposez-le sur la plateforme, c'est gratuit, on ne gagne absolument rien, si ce n'est plein d'expériences super enrichissantes. Nous, on a proposé avec mon conjoint pendant plusieurs années notre canapé et plein de gens sont venus, on a passé des super soirées, on a joué de la musique avec des Canadiens, on a appris à faire du ballooning avec des Espagnols, à beatboxer avec un Anglais, entre autres expériences géniales. Et personnellement, moi j'ai souffert d'agoraphobie pendant 8 ans, j'ai pas pu sortir de chez moi, de Paris, et ces expériences ont permis de voyager chez moi, de montrer à des étrangers comment on vivait, ce qu'on mangeait, etc. Et surtout vice versa. Je vous aime. Ciao.
Bonjour, Didier de Montauban. Alors, du colonialisme dans le tourisme. Oui, bon, il y en a beaucoup plus dans l'exploitation des matières premières. Au vu du tollé pour 3 puits de pétrole en Île-de-France, imaginez si d'une manière ou d'une autre, on relocalisait en France toute l'énergie et les matières premières que nous consommons. Peut-être alors on réfléchirait à davantage de sobriété. Mais bon, tant que c'est loin de chez nous, on s'en accommode tous un peu. Merci.
Bonjour, Françoise de Paris. Pendant très longtemps, quand j'étais plus jeune, j'ai voyagé sac à l'épaule, toujours un petit sac de moins de 5 kilos, toujours baroudeuse, jamais les endroits où il fallait aller. J'ai été en Asie du Sud-Est, en Australie, beaucoup en Angleterre, mais là entièrement à vélo, vélo musculaire, en Irlande. Donc, quand on parle de questionner la façon de voyager, moi je l'ai remise en question il y a tellement des dizaines d'années là, et je comprends que le surtourisme c'est affreux, mais c'était déjà affreux avant, mais ça a apparemment beaucoup, beaucoup augmenté. C'est une liberté de se rebeller contre tout ce qui est organisé et de partir seul. Ça, c'est très important pour rencontrer du monde. Voilà, donc salut à tous les baroudeurs.
Oui, bonjour. Voilà, je vous contacte pour vous signaler une coupe rase sur Clédimpoère, au lieu dit Botaval. Donc, c'est un joli petit bois qui est en train de se faire raser. Ce bois est privé, nous ne pouvons guère faire quoi que ce soit. Cela dit, c'est un désastre écologique à mon sens. Bonne journée.
Et merci pour vos messages. L'émission d'hier était consacrée au voyage des coloniaux, hein, ce qui explique tous ces messages que vous pouvez d'ailleurs réécouter. L'émission, en tous les cas, en podcast sur franceinter.fr. Et pour le répondeur, c'est le 01 56 40 45 45. Si je vous dis Carnac, vous penserez sans doute immédiatement à ces menhirs. Il y a 7000 ans en Bretagne, des humains non contents d'être devenus des agriculteurs et des éleveurs performants ont eu la drôle d'idée de diriger sur le sol des blocs de pierre gigantesques appelés mégalithes. Pour évoquer le caractère exceptionnel de ces édifices, on parle même du phénomène carnacéen avec la plus grande concentration d'ouvrages de stèles au monde et de gravures connues sur ces monuments. Le golfe du Morbihan abrite à lui seul des milliers justement de monuments avec une diversité sans commune mesure. Qu'elles soient à l'air libre, sous la forme de tombeaux ou même présentes dans la mer, ces constructions ne cessent de nous interroger. Que s'est-il passé dans cette région à cette époque, lorsqu'ont été dressés ces vestiges? Que racontent ces alignements? Comment ont-ils été transportés? C'est l'objet d'un documentaire Carnac sur les traces du royaume disparu qui sera diffusé demain soir sur France 5. Et pour en parler, nous sommes en studio avec les archéologues Olivier Agoguet et Cyril Marcel. Bonjour.
Bonjour
à tous les deux.
Bonjour.
Bienvenue Olivier Agoguet, vous travaillez sur la préhistoire récente, vous êtes administrateur des monuments nationaux et directeur du musée de préhistoire de Carnac. Cyril Marcini, vous travaillez à l'INRAP et vous êtes spécialiste de l'étude du néolithique et de l'âge du bronze. Et puis nous sommes en ligne avec vous, Marie Wurtsch, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en anthropologie sociale et historique et spécialiste d'art rupestre et d'archéologie expérimentale. On va donc se retrouver dans un instant pour mieux comprendre ces mégalithes. Et vous nous rejoignez avec vos questions dès maintenant sur la page de la Terre au Carré et sur nos réseaux sociaux. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passe au vert à 14h30.
Et je vous emmène dans les forêts ougandaises et rwandaises notamment, où les grands singes peuvent mourir à cause de nos miasmes. Un simple rhume pour nous peut être une menace pour eux. Et on dit merci qui ? Merci les touristes qui leur refilent.
Et on sortira les mouchoirs. Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestara et préparée par Lucie Sarfati avec Anne-Laure Cochet à la technique.
La Terre au Carré. Mathieu Vidard sur France Inter. À vol d'oiseau, nous sommes à une dizaine de kilomètres de Carnac et surprise malgré les apparences, même ici, les menhirs abondent.
Un repère qui est extrêmement intéressant, c'est le repère de l'ours de Kerbouniec, on l'appelle. Donc c'est une bouée sud ou nord. Elle fait un repère extrêmement intéressant pour nos alignements de menhirs. Donc ils sont en gros à nord 108, ça y est, j'y suis. Et je cherche des cailloux posés. Alors posés pourquoi ? Parce que c'est l'homme qui les a posés. Et donc là, celui-ci, c'en est un.
Extrait de ce documentaire de Philippe Tourancheau, donc demain soir, Casse Science Grand Format sur France 5 à 20h50, avec la voix que vous avez reconnue de Rebecca Manzoni, notre camarade. On s'intéresse cet après-midi au site mégalithique de Carnac, entre autres d'ailleurs, parce qu'on va pas parler que de Carnac, mais c'est vrai que quand même la première chose étonnante que l'on découvre dans ce film, Olivier Agoguet, c'est la présence de ces blocs de pierre dans la mer. On en retrouve aussi dans l'eau.
Effectivement, c'est un témoignage concret de la remontée du niveau de la mer depuis l'époque néolithique. L'océan a remonté de 6 à 8 mètres, donc on a toute une série de monuments et de sites archéologiques qui sont immergés aujourd'hui. Donc certains sont accessibles à marée basse, c'est pour ça qu'on a pu identifier des fils de pierre dressés qui sont sur le cordon littoral aujourd'hui, mais qui à l'époque n'ont pas été construits dans la mer.
C'est ça, il n'y a pas cette volonté de les mettre dans l'eau. Hein.
C'est effectivement la mer qui a remonté et qui a immergé certains sites, donc on a un certain nombre de choses qui nous manquent aujourd'hui parce qu'elles sont sous l'eau.
Ouais. Il y a eu un inventaire qui a été fait d'ailleurs du nom, parce que ça doit être très compliqué.
C'est très compliqué.
D'abord de distinguer peut-être ces blocs de pierre des rochers réels. Hein.
Voilà, il faut déjà arriver à déterminer entre les pierres qui ont vraiment été amenées ici et qui font partie de constructions mégalithiques et les rochers naturels. Et puis, il faut arriver à les identifier dans nos eaux, qui sont quand même des eaux assez troubles, hein, qui sont souvent difficiles à observer. Donc c'est vraiment un travail compliqué. Donc on commence à avoir bien documenté ce qui est vraiment sur le littoral, mais ce qui est plus profond, on a encore sans doute des choses qui sont inaccessibles.
C'est ça, et donc on va encore en découvrir de nouveaux. Hein.
On a encore un certain nombre de champs de recherche. Si un jour on assèche le golfe du Morbihan, là on a énormément de sites qui peuvent ressurgir.
Et on en découvre aussi en forêt, sous le couvert végétal, c'est aussi ce qu'on apprend dans le documentaire.
Exactement, et c'était des choses aussi qui étaient souvent difficilement observables, parce que la photographie aérienne, qui est une des méthodes de recherche et d'identification, souvent ne permet pas de discriminer des choses dans le couvert végétal. Ouais. Et aujourd'hui, on a des nouvelles méthodes radar, des relevés de type LIDAR qui permettent de passer outre ce couvert végétal et qui permettent de mieux identifier ces monuments qui sont masqués par la végétation.
Donc c'est la chasse au trésor maintenant. Cyril Marcini, qu'est-ce qui se passe au Néolithique lorsque des humains qui maîtrisent, je le disais depuis quelques temps quand même assez bien, l'agriculture, l'élevage, ont aussi envie en même temps de dresser d'énormes blocs de pierre? Qu'est-ce qui leur prend en fait? C'est quoi l'idée?
Dans le détail, on ne sait pas. En tout cas, ce qui se passe, c'est qu'ils décident de gérer le territoire différemment et ça fait partie d'un des géosymboles qui permet de gérer le territoire. Voilà, le mégalithe, il faut voir ça un peu comme une église, si on prend un terme plutôt actuel. C'est quelque chose qui compte dans le paysage, qui incarne là, en fait, la société entière. Et donc, ces individus ont commencé à dresser des choses qui fait partie de la structuration générale du territoire néolithique.
Donc ça marque une présence aussi, ça veut dire aussi on est là, on existe.
C'est un caractère identitaire pour la tribu ou le groupe qui est là à un moment X ou Y.
À quel moment ça commence d'ailleurs? Parce que je parlais de 7000 ans, est-ce que c'est exact au niveau des dates?
Ouais, c'est à peu près ça. Les monuments les plus anciens, je pense qu'Olivier sera plus calé que moi sur la question, mais je crois que les stèles apparaissent dès le Néolithique moyen 1. Donc voilà, on est autour de 4700.
C'est quoi le Néolithique moyen 1, s'il vous plaît?
C'est autour de 4700, dans ces eaux-là.
4700 avant notre ère, donc d'où 7000 ans, en fait. Hein,
c'est exactement ça.
Quand on fait le calcul.
Ils font partie des architectures monumentales les plus anciennes qu'on ait, nous, en Europe de l'Est. Donc notre mégalithisme, parce que le mégalithisme est un phénomène mondial, on en reparlera, fait partie des plus anciens. Donc c'est vraiment les premières communautés agricoles qui ont bâti ces architectures.
Ouais. Et donc, Cyril Marcini, oui, on en retrouve dans le monde entier, en fait, si on fait un inventaire global.
Oui, c'est une technique architecturale qui couvre l'ensemble de la Terre. En fait, la technique est simple, hein, il y a des grosses pierres, c'est facile de les mettre en place et de construire quelque chose avec.
Ouais, enfin, c'est facile, dites donc, vous allez vite quand même.
Il faut l'huile de coude, c'est tout.
Oui, c'est ça, de la bonne huile
et
de
des
coude.
Gens.
Oui, parce que ça pèse très très lourd, évidemment.
Pas tout le temps. Il y a des monuments mégalithiques qui sont faits avec des pierres qui ne sont pas très volumineuse. On a fait de la restauration de mégalithes avec des petits groupes de 20 personnes. Hein, donc voilà, il n'y a pas besoin d'avoir des groupes énormes. Et puis il y a des menhirs énormes comme le grand menhir de Locmariaquer où là, il faut l'armée.
Il fait quoi, 300 tonnes à peu près, c'est ça hein.
Alors, là, pareil,
je crois que c'était calculé.
300 tonnes. Une vingtaine de mètres, 18 mètres hors sol, 20 mètres au total.
C'est le Maus Costo, celui-là.
C'est le grand géant. Et effectivement, là, c'est un signe immanquable dans le paysage.
Alors lui, il n'est pas érigé, par contre. Il s'est cassé la figure, il est brisé.
Il est brisé en 4 fragments. Il est tombé dès la préhistoire, d'ailleurs. Donc ça fait très longtemps.
On en reparlera d'ailleurs, parce que les raisons qui sont proposées sur sa brisure sont assez intéressantes. Marie Wurtsch, qu'est-ce que vous faites exactement comme travail, vous, autour des mégalithes?
Alors moi, mon travail, ça a été de mener une expérimentation archéologique à Gavrinis, autour des gravures rupestres de Gavrinis. En fait, l'objectif n'est pas d'avoir un fac-similé au bout du bout, mais plutôt pour mieux comprendre les chaînes opératoires vraiment de la gravure.
Mmh. Et où se trouve l'endroit exactement où vous avez travaillé ?
Alors, j'ai eu l'occasion... Donc, le site de Gavrini se trouve dans le golfe du Morbihan, sur une île. Il s'agit d'un tumulus néolithique.
Oui.
Il a comme particularité, c'est que la quasi-totalité des dalles dans le monument sont gravées.
Mmh.
Et donc, dans le cadre d'un réenregistrement des gravures... dans la région en fait qui avait été commencé il y a une dizaine d'années par Serge Cassen qui travaille à l'université de Nantes. En fait, j'ai eu l'occasion de mener cette expérimentation parce qu'on s'est rendu compte que il y avait pas ou très peu d'expérimentations qui avaient été réalisées sur les gravures.
Et l'idée, c'est quoi ? C'est te mettre dans la peau, finalement, des humains qui ont réalisé ces gravures à l'époque ?
Alors, se mettre dans la peau des humains, c'est un peu difficile, d'autant que nous, on agit d'un point de vue scientifique, en fait, donc la symbolique n'est pas du tout la même.
Mm-hmm.
Mais l'objectif, il y avait plusieurs objectifs, mais les premiers objectifs, c'était de déterminer le type d'outil qui avait été utilisé, à la fois la nature, la morphologie, de déterminer les techniques qui avait pu être utilisé. Donc on voit tout de suite que c'est de la percussion, mais est-ce qu'il s'agit de percussion directe ou indirecte ?
Donc c'est travailler sur le geste aussi, hein, finalement.
Ça, c'est sur le geste, oui. Et alors, il y a la technique et il y a aussi d'autres paramètres gestuels qui rentrent en ligne de compte.
Mm-hmm.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on a mené cette expérimentation avec Cyril Chéniaud, qui travaille au musée de Carnac. Et on n'a pas du tout la même carrure. Et on a commencé à travailler justement en double aveugle pour évaluer un petit peu les différences, pour comparer en fait les résultats qu'on obtenait.
On va en reparler avec vous tout à l'heure. On rentrera un petit peu dans les détails justement de cette pratique. Cyril Marcigny, qu'est-ce que l'on sait exactement de l'alignement ? Alors, parce que quand on a Carnac en tête, on a vraiment ces alignements. Pareil, est-ce qu'on arrive à comprendre la signification, qu'est-ce qu'on a voulu y mettre en fait à l'époque ?
Ça reste encore un peu mystérieux tout ça. Il y a eu plein d'hypothèses, hein, des orientations, des choses comme ça par rapport à des astres solaires ou lunaires. Je crois qu'on revient un peu sur ces questions-là actuellement. Je pense qu'Olivier aura plus d'informations nouvelles là-dessus, mais je pense que ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est plus en lien justement avec la gestion et la signature territoriale, ces alignements.
Mais est-ce qu'il y a quand même, Olivier Agogué, des rituels avec quand même quelque chose de l'ordre du spirituel qui a été évoqué pour essayer de justifier cet alignement ou pas ?
On a émis énormément d'hypothèses, beaucoup, beaucoup de types rituels, d'autant que les alignements qui sont donc des fils de pierre dressés débouchent dans certains cas sur des enceintes qui sont des pierres dressées, disposées en arc de cercle. Donc on a longtemps tissé l'hypothèse d'allées cérémonielles qui conduisaient vers le lieu de culte qui serait dans cet espace enceint.
Ah oui, l'avenue, carrément.
Voilà. Alors on est revenu très largement sur ces idées parce qu'on n'a aucun élément archéologique matériel qui vient le confirmer. Donc voilà, on parle de sociétés sans écriture qui ne nous ont pas laissé de notices. Il ne reste qu'une petite partie de ce qui composait la vie de ces gens-là. Donc Les hypothèses sont encore assez largement ouvertes.
Il y a justement Priya qui nous écrit qu'il a lu que les alignements des menhirs suivaient des failles géologiques et qu'on pouvait imaginer que les hommes et femmes de cette époque avaient dressé ces menhirs pour tenter de maintenir les sols. Elle est probable ? Elle est crédible ?
Alors, maintenir les sols, pas complètement, mais c'est vrai qu'il y a une organisation par rapport au grand paysage. Si on prend un peu de hauteur vis-à-vis de la géographie du territoire de Karnak, on s'aperçoit que ces alignements, qui ne sont pas tout droits, c'est une espèce de grand serpent dans le paysage, suivent très précisément une ligne de crête qui sépare les plaines littorales, donc le côté marin, de l'intérieur des terres. Donc on a vraiment cette limite géographique qui est soulignée par les alignements de Karnak.
Allez, on se retrouve dans un instant. Vous allez nous expliquer comment ces pierres de plusieurs tonnes, quand même, ont été transportées, parmi les nombreuses questions qu'on se pose autour de ces mégalithes. Avec moi jusqu'au bout de la nuit. Voilà ce que veut dire cette chanson de Fabiana Palladino sur France Inter.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Actuellement, dans l'inventaire que j'ai réalisé, nous en sommes pour la région Karnak, pas seulement la commune, mais la région, à 14 388 menhirs. Ça ne représente sans doute qu'un très faible pourcentage de ce qu'il y a eu, parce que ces monolithes sont très très anciens.
Karnak sur les traces du royaume disparu, diffusé demain soir sur France 5. C'était la voix de Christian Obeltz, archéologue. On parle donc des mégalithes. Olivia Goguet, 14 388, c'était en 2021, parce que c'est la date de la diffusion du documentaire à l'époque. L'inventaire a augmenté ou pas ?
Oui, il y a toujours quelques monolithes qui sont identifiés, notamment, ouais. On parlait du couvert forestier, donc on continue à en sortir régulièrement. Ouais. Mais effectivement, ça n'est que ce qui a survécu à ces milliers d'années d'activité humaine, donc ça ne reste de toute façon qu'une ruine d'un ensemble encore plus colossal à l'époque préhistorique.
Émilie voudrait savoir si dans le golfe du Morbihan, au sud de l'île Longue, donc celle qui est dans le golfe du Morbihan, elle dit qu'il y a une pyramide sous-marine immergée à 20 mètres sous l'eau, qu'elle l'a vue en plongée, qu'elle est donc parfaitement pyramidale, et demande si elle a été étudiée. Est-ce que vous le savez, Cyril Marcigny?
Pas du tout.
Vous n'avez pas connaissance de cette...
Ça ne parle pas. Il y a des choses sous l'eau, mais pas cette pyramide.
Olivier Goguet.
Effectivement, c'est une anomalie qui a été vue et qui n'est pas du tout interprétée pour l'instant. Voilà, on a aucun élément qui permet de confirmer que c'est vraiment un vestige archéologique à ce stade.
Sauf qu'il y a ce terme de pyramide, Cyril Marcigny, qui est quand même intéressant, parce qu'on peut évoquer quasiment des pyramides bretonnes dans certains cas, non ?
Bah, pas que bretonne, mais tous ces cairns, tous ces monuments mégalithiques sont des sortes de pyramides, alors pas à bout pointu, puisque c'est plutôt des formes un peu plus molles, mais... Quand on a l'image du mégalithe, on imagine une table avec deux montants de chaque côté, mais ça, c'est ce qui est caché, en fait, ce qui n'est pas vu par les gens. Ce qui est le monument, c'est tout ce qu'il y a autour. En fait, il y a un gros cairn ou un gros tas de terre qui vient englober l'ensemble et qui peut faire des monuments assez monstrueux en taille. Mmh. Hein. Donc, c'est un peu nos pyramides, ouais.
Ouais, et qui ont été faits avant les Égyptiens, en plus.
Bah, bien sûr.
Ah bah, quand même, il faut le signaler. C'est vrai qu'il y a une grande diversité, en fait, hein, dans les mégalithes. C'est-à-dire qu'on pense à la fois aux tables ou aux menhirs, mais il y a plein d'autres choses. Il y a les tumulus, par exemple.
Ouais, en fait, et maintenant, on regroupe plein de choses sous le terme mégalithe. Hein. Ça va du tertre funéraire uniquement en terre pour une chambre unique, jusqu'à des choses très complexes faites avec pierre et terre, et les choses uniquement en pierre. C'est une très grande variété et c'est des millénaires de construction architecturale aussi.
C'est ça, parce qu'on n'a pas tout construit au même moment. Non, hein. Il faut le prendre dans un ensemble aussi très espacé temporellement. C'est ça.
On évoquait tout à l'heure les stèles là, qui commencent plutôt au début du 5e millénaire. Mais les derniers mégalithes, chez nous, ils datent du 2e millénaire.
Ouais. On voit d'autres monuments très impressionnants dans d'autres pays. Il y a Stonehenge, par exemple, au Royaume-Uni. Qu'est-ce qu'on peut dire, d'ailleurs ? Est-ce qu'il y a vraiment des correspondances entre Karnak, par exemple, et un site comme Stonehenge, ou pas ? Ou c'est vraiment très singulier dans chaque pays ?
Non, on ne peut pas parler de correspondance. Là, pour le coup, on est vraiment à des millénaires de distance, hein, puisque du coup, Stonehenge, c'est un peu l'aboutissement de toute cette architecture.
Donc, c'est la fin ?
C'est la fin. Le Stonehenge, comme on l'imagine, comme on le voit encore maintenant,
l'image,
les dalles et les trilithes dressés, là, on est autour du milieu du deuxième millénaire. On est autour de 1500 avant notre ère.
Ah oui, donc c'est jeune.
C'est très jeune. On est à l'âge du bronze moyen.
Oui, c'est ça. Marie Wurtsch, on parle de gravure, hein, donc ça, c'est votre travail. C'est aussi quelque chose qu'on ignore beaucoup, d'ailleurs, quand on observe ces mégalithes, c'est de penser aux gravures. Parce que, pourquoi, d'ailleurs ? Parce qu'on ne les voit pas forcément très très bien à l'œil nu.
Il y en a certaines effectivement qu'on ne voit pas bien. Celles qu'on voit, forcément, on y pense. Mais, j'ai pas très bien compris en fait.
Ma question ?
Oui.
La question, c'est que quand on pense à ces mégalithes, en tout cas en tant que visiteur, pas en tant que scientifique, hein, mettez-vous dans la peau de celui qui les observe de loin, on pense pas à ces gravures, et pourtant qui racontent plein de choses, parce qu'on le voit d'ailleurs dans le documentaire, il y a des gravures qui représentent des animaux très symboliques à ces époques, et ça on l'a pas forcément en mémoire.
Il y a tout un enregistrement là qui est en train d'être renouvelé justement avec des méthodes un peu plus modernes de photomodélisation par l'équipe de Serge Cassène. Et une partie de ces gravures sont moins visibles parce qu'elles sont à l'intérieur, donc elles sont un petit peu cachées. Ça, c'est un fait. Une autre partie, probablement, a été détruite ou en tout cas est en forte dégradation, celle qui se trouve sur des mégalithes en extérieur. Et avec l'érosion, les conditions climatiques peuvent effectivement détériorer énormément les gravures.
Oui, Olivier Goguet, c'est vrai qu'on pense plutôt à la pierre brute plutôt qu'à l'aspect esthétique, en tout cas, des artistes de l'époque.
En effet, alors sur notre vaste corpus, on a les deux en fait. On a des pierres qui sont restées brutes et l'essentiel des pierres qui composent les alignements de Carnac sont des pierres qui ont la forme qu'elles ont eue quand elles ont été extraites de la roche et qui ont gardé leur forme naturelle et qui sont dressées telles quelles. Ouais. Et on a d'autres pierres comme le grand menhir de Locmaricaire qu'on a déjà été évoqué, qui lui a été travaillé, qui est fuselé, que les surfaces ont été régularisées pour y permettre notamment d'y implanter des gravures.
On en parlera, on précisera quels sont justement les motifs qui sont représentés. Cyril Marcigny, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à parler de peinture sur certaines roches à l'époque ou pas? Est-ce que comme
c'est sur les parois question. Rocheuses? En fait, en Espagne, les chercheurs espagnols, dont Mimi Bueno, qui a mis en évidence, il y a déjà plusieurs années, des traces de peinture, qu'on voit d'ailleurs pour certaines à l'œil nu. D'autres fois des traitements photographiques.
Donc ça en Espagne.
Ça c'est en Espagne. Ouais. Ça a forcément inspiré nos collègues du nord de la France et particulièrement la Bretagne. Donc il y a eu plusieurs programmes de relevés. Je pense en particulier à Bardonnaise. Il y a des choses qui ont été vues. C'est encore difficile de vraiment.
Il y a une vraie discussion scientifique sur cette question.
C'est assez. Voilà, pour certains c'est sûr, il y a de la peinture. Pour d'autres, c'est pas le cas. Voilà,
on quand vous dites il y a de la peinture, c'est-à-dire il y en a eu et on ne la voit plus.
On la voit plus, on voit des traces.
Ouais, c'est ça.
Lorsqu'on utilise certains filtres photographiques sur les photos. Pour d'autres, c'est pas du tout des peintures, ça peut être des traces liées à de la végétation, des choses comme ça. Et là, on est en plein débat scientifique.
Oui, c'est ça, Olivier Goguet. Hein. Ça suscite vraiment la discussion.
Oui,
hein.
Il y a deux clans. Effectivement, on n'a aucun motif peint identifiable. Alors qu'on a des gravures qui représentent des choses qui sont sans hésitation.
Ouais, ouais.
Alors que les traces de couleurs sont toujours discutables. On a rien de.
Mais il faudrait imaginer un menhir peint en entier ou ça, c'est complètement délirant.
C'est pas du tout improbable. Effectivement, la couleur archéologique existe. En Espagne, donc il est tout à fait possible que ça a été assez kitsch et très très coloré, mais les conditions de conservation depuis ces millénaires et dans nos terrains bretons qui sont quand même assez difficiles font qu'on a peu de chances d'avoir vraiment des peintures archéologiques préservées chez nous.
Paul voudrait savoir sur franceinter.fr s'il y a eu des échanges de techniques. Il demande par exemple s'il y a un lien de parenté entre les mégalithes de Carnac et les statues menhirs de Méditerranée, notamment celle de Corse. Cyril Marcigny.
Bah là encore, on est sur de la distanciation chronologique très large, puisque à nouveau, les statues menhirs corse, elles datent de l'âge du bronze, donc on est vraiment des millénaires après. Je pense pas qu'on puisse parler de filiation, c'est pareil au 19e, au début du 20e, on voyait justement des mouvements de filiation, d'architecture qui bougeaient. On en est bien revenu maintenant, voilà, c'est des pôles d'innovation, le mégalithisme. Chacun dans son coin, avec les matériaux qui étaient sur place tout simplement et qui voyaient dans la nature, s'est emparé de ces objets lithiques pour en faire des architectures de différentes natures.
Allez, on va vous révéler dans un instant les techniques qui ont permis d'ériger ces roches. Et puis bien sûr, on attend vos messages sur franceinter.fr.
France Inter, la Terre au carré.
À 14h31, c'est l'heure de passer au vert, Camille.
Avec un article du Guardian qui titre que les chimpanzés meurent de rhume. Oui, de rhume. Ce que nous, humains, pouvons leur transmettre quand on se pointe dans leur forêt pour les observer. Alors pas en tant que scientifiques, non, eux respectent scrupuleusement les protocoles avec le port du masque, du gel sur les mains, des quarantaines même avant d'y aller et la distance, on ne s'approche pas trop près. Mais quand vous venez avec votre appareil photo, votre casquette et vos chaussures de rando quechua, bref, en touriste. Le journal britannique raconte l'histoire de 205 chimpanzés du parc national de Kibale en Ouganda, toussant, éternuant et ayant l'air complètement HS, mais pas moyen de savoir d'où venaient les symptômes, jusqu'à ce que le corps d'une d'entre eux, Stella, soit repéré peu après sa mort. L'épidémiologiste américain Tony Goldberg a pu l'autopsier et a trouvé qu'elle était morte d'une pneumonie sévère causée par le HMPV, un virus humain synonyme grosso modo de rhume banal pour nous, donc, mais létal pour nos plus proches parents. Plus de 12% du groupe, c'est-à-dire 25 individus, sont morts, sans compter les dommages collatéraux, par exemple le bébé de Stella qui n'a pas pu lui survivre. Et les coupables, donc, sont les touristes qui viennent s'extasier sur les chimpanzés ou les gorilles, également concernés par le phénomène, et font n'importe quoi. Explication avec la primatologue Sabrina Krief.
En théorie, quand les touristes vont à la rencontre des gorilles ou des chimpanzés, il y a une distance minimale à respecter et bien sûr aucun contact avec les animaux. Donc c'est entre 7 et 10 mètres de distance entre le touriste et l'animal. Or, dans une étude qui a été publiée en 2020, sur 53 visites aux gorilles, la totalité, en fait, ne respectait pas ces 7 mètres de distance et les touristes s'approchaient à environ 3 mètres à pratiquement chaque visite.
Mais c'est pas tout. 282 vidéos YouTube ont été analysées et dans 40% d'entre elles, il y avait carrément contact avec l'animal ou approche à quelques centimètres. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour avoir des likes sur les réseaux sociaux? Et le tout, autre étude et dernier élément, sans aucune précaution.
Dans le parc national de Kibale, il y a plus d'une centaine de treks qui ont été étudiés et dans ce cas-là, il y avait près de 90% des touristes qui toussaient, 65% qui éternuaient.
Le tout sans masque, bien sûr, et avec des groupes normalement limités à 6 personnes pour éviter trop de pression sur les grands singes, mais qui se rassemblent sur certains points avec d'autres groupes, et voilà 18 personnes d'un coup qui leur refilent leur miasme, et les guides qui n'osent pas trop leur dire quoi faire, parce que sinon ils auront moins de pourboire, c'est ce qui est expliqué aussi. Alors gorilles, chimpanzés ou bonobos peuvent tomber donc malades, les primatologues les voient souvent dans la forêt, tousser, éternuer, ou avec des diarrhées, ça c'est, on va dire, leur maladie à eux, leur maladie naturelle, avec leur pathogènes. Là, avec les humains, venus en plus des quatre coins du monde, c'est totalement différent. Ils ne sont pas adaptés.
La chose importante à comprendre, c'est que pendant de très nombreuses années, ils ont été isolés de contact avec les humains et donc leur immunité ne s'est pas développée en contact avec ces agents pathogènes. D'autant plus que les agents pathogènes qu'on leur apporte viennent de très loin. Donc, ils ont pu être en contact avec des pathogènes de villageois ou de chasseurs ou bien encore de chercheurs locaux, mais l'écotourisme accroît le risque pour eux.
Un risque établi. Dans certains groupes, la transmission de virus ou de pathogènes humains aux singes a été la cause principale de mort, 59%, plus que le braconnage ou la perte d'habitat par endroit. Quant aux gorilles des montagnes, il n'en reste qu'un millier au total aujourd'hui. Donc, chaque individu qui meurt représente une menace pour la survie de l'espèce. Problème soulevé aussi dans le Guardian, cet écotourisme est aussi bénéfique pour la protection des grands singes parce que l'argent qu'il rapporte incite les populations à se mobiliser contre le braconnage, contre la déforestation, justement pour préserver ce qui est vu comme un trésor aussi économique.
C'est cet écotourisme qui probablement a sauvé les gorilles au moins temporairement. Donc ce serait dommage que ça ne se poursuive pas et que à l'inverse ce soit les touristes qui aujourd'hui tuent les gorilles par des maladies.
Impossible de renoncer à cet écotourisme pour l'instant, c'est un gros dilemme. Le serpent qui se mord un peu la queue. Solution ?
Ça devrait surtout venir des touristes eux-mêmes qui se responsabilisent et ne mettent pas en jeu la vie des animaux qu'ils viennent observer.
Sauf que malheureusement, souvent, même si on dit les aimer, ces animaux, on s'aime un peu plus soi-même, n'est-ce pas ?
Souvent, l'excitation de ce voyage et le fait que ça fait longtemps que les touristes rêvent de rencontrer les gorilles, s'il y a un petit mal de gorge ou une petite diarrhée, ils se disent c'est pas trop grave, je vais faire attention. Et malgré tout, c'est là où le risque est important.
Les boulets en vacances et les grands singes, eux, s'en seraient bien passés.
Avec la primatologue Sabrina Krief qui répondait à vos questions, Camille Cronier.
Olivia Goguet, est-ce qu'il y a des menhirs, des mégalithes en Afrique et peut-être en Ouganda, Rwanda ?
Alors, Ouganda, je n'en suis pas sûr, mais en tout cas en Afrique, oui, il y a de très beaux mégalithes et de très bons monuments archéologiques. C'est comme on l'a dit, un phénomène qui existe un peu partout dans le monde.
Mais comment ça se fait, Cyril Marcini ? Moi, je me pose toujours la question, ils se synchronisent sans jamais se voir. Comment tout le monde a la même idée quasiment au même moment ? C'est quoi le truc ?
C'est pas du tout au même moment. En fait.
Oui, mais
c'est...
je veux dire, ils sont pas au courant.
Il y a pas de communication.
Ceux qui sont en Afrique sont pas au courant que c'est en train de se faire en Europe, quoi.
Non. Alors, je sais pas quand datent les monuments africains, mais en tout cas, si on reste à l'échelle de l'Europe, il y a vraiment des différences chronologiques très importantes.
Mais comment on explique qu'ils ont quand même tous l'idée de faire ça à un moment ou à un autre ?
Parce qu'en fait, ils sont dans un paysage avec déjà des grosses pierres qui existent. Ces grosses pierres ont peut-être d'ailleurs déjà une symbolique avant d'être dressées, et on réutilise ces grosses pierres pour faire ces architectures tout simplement. On utilise le matériau qui est devant ses yeux.
Et tous les cerveaux humains partout sur la planète finalement ont eu la même idée, à différentes périodes encore, mais quand
c'est
même.
C'est ça. Hein, ouais.
C'est ça qui est étonnant. Allez, on se retrouve dans un instant suite de ce dossier sur les mégalithes.
Ne serait-ce qu'une fois, hélas. Ne serait-ce qu'un instant fugace, les mains sales, les ongles pleins de grâce, aurais-je su toucher la grâce? ne serait-ce même qu'en surface, avec le bout de la godasse. Comme on pousse une vieille carcasse, aurais-je su toucher la grâce? Aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché? Aurais-je sans la voix cherché, parler devant, parlant de moi? Aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché? Trouver la part d'humanité qu'on a tous indifféremment, ne serait-ce que de guerre lasse, sans ne plus y croire des masses, tabassées par la vie qui tabasse. Aurais-je su fondre la glace, trouver une voie dans les congères, jusqu'au cœur de mes congénères, avant que je tombe en disgrâce? Aurais-je effleuré cette grâce? Aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché? Aurais-je sans la voix cherché, parler devant, parlant de moi? Aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché? Trouver la part d'humanité qu'on a tous indifféremment.
La grâce, c'était Alain Chamfort.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
Nous sommes face à quatre gros fragments d'un même monolithe, qui est un monolithe extrait dans une roche qui s'appelle l'Orthogonès, qui vient de la presqu'île de Ruys, à une dizaine de kilomètres d'ici. Les cassures, d'ailleurs, au passage, vous le voyez, sont très nettes. Donc probablement que ce monolithe s'est brisé en tombant. Donc on a peut-être ici, au milieu du 5e millénaire, la preuve d'un de ces séismes qui ne sont pas fréquents dans la région, mais qui arrivent, puisque au 13e siècle, Vannes a été en grande partie détruite par un séisme de cette nature.
Un séisme breton, on en parle cet après-midi à l'occasion donc de ce doc à voir demain sur France 5 sur les mégalithes de Carnac et de la Bretagne, avec nos invités Olivier Goguet, Cyril Marcini et Marie Vourche. Un vrai séisme, effectivement, on l'entend dans cet extrait, Olivier Goguet.
Eh bien, ça reste l'hypothèse la plus plausible. Effectivement, ça a longtemps été discuté. On sait qu'il est brisé depuis extrêmement longtemps, mais est-ce que c'était une chute intentionnelle? Est-ce qu'on l'a poussé pour le faire tomber, ou est-ce qu'il est tombé tout seul? Et on a une concordance d'éléments qui plaident vraiment pour cette thèse d'un accident sismique et qui aurait provoqué sa chute et la chute d'autres monolithes qui l'accompagnaient.
Et là, c'est le géant en plus, celui-là.
Et c'est le géant, donc quand il est tombé, ça a dû faire du bruit.
Le géant de Loch Mariaker, puisque vous le disiez, 20 mètres de haut, masse estimée à peu près à 300 tonnes, et la voix de Serge Cassin, qu'on entendait à l'instant, anthropologue Marie Vourche, vous avez travaillé avec lui. Et alors on découvre par exemple sur ce mégalithe des gravures, et on va écouter un autre extrait d'ailleurs, puisqu'on voit des animaux, effectivement, parmi les gravures, et Serge Cassin va nous décrire de quel animal il s'agit.
On distingue bien quand même la queue de l'animal ici, cette espèce de crochet qui vient ici. À mes yeux, c'était plutôt du côté de l'environnement marin qu'il fallait chercher, et on a là quelque chose qui peut représenter un cétacé soufflant quand il arrive en surface. Et plus qu'un cétacé encore, avec une tête quadrangulaire comme celle-là, ça ne peut être que le cachalot.
Voilà, Marie Vourche, donc un cachalot sur le menhir géant de Loch Mariaker. Il y a beaucoup d'animaux qui sont représentés dans les gravures ?
Alors, la plupart des gravures, il y a peu d'animaux en vérité. En tout cas, peu d'animaux identifiables instantanément. On a parfois des bovidés, mais la plupart, en fait, des animaux qui sont représentés donc en dehors du cachalot, ça serait plutôt des animaux marins de type oiseau marin ou ce genre de choses. Mais de nombreuses gravures, en fait, ne représentent pas quelque chose d'identifiable immédiatement.
Et avec quels outils, finalement, les humains de l'époque ont pu procéder à ces gravures sur des blocs de pierre aussi gigantesques ?
Eh bien, en fait, alors on ne peut pas affirmer avec certitude qu'ils utilisaient tel ou tel outil, hein, mais nous, ce qu'on a pu montrer sur des supports en granit à grain fin de type Carnac ou bien sur de l'orthognaïs, comme le grand menhir, donc les résultats sont à peu près équivalents. En fait, ils utilisaient non pas, comme on avait pu l'imaginer ou le lire dans des publications anciennes, d'énormes percuteurs de 2 kilos ou plus frappés à la surface, mais plutôt des outils plus petits, dans un premier temps pour préparer la surface, et dans un second temps pour la gravure à proprement parler. On est plutôt vers de la percussion indirecte, c'est-à-dire avec un outil intermédiaire qu'on vient frapper avec soit une grosse pierre, soit un percuteur en végétal ou en bois de cervidée, plutôt. Et donc, en réalité, les outils qu'on peut retrouver, ceux qui ont vraiment servi à graver, ne sont vraiment pas très grands. Donc ça permet aussi d'essayer d'ouvrir un petit peu le champ des recherches en archéologie, pour savoir un petit peu plus ce qu'on peut chercher qui correspondrait à des outils de gravure.
En parlant d'outils, alors là on va élargir, puisque Gilles sur franceinter.fr, Cyril Marcini nous demande ce qu'on sait des techniques qui ont pu être utilisées. Alors lui parle notamment du monument de Stonehenge, mais peut-être qu'on peut élargir les techniques, est-ce qu'elles sont différentes et est-ce qu'on les connaît ?
Alors pour ériger les pierres.
Estelle, ouais. On les connaît pas, on fait des propositions. Et il y a plusieurs techniques. Il y a des chèvres en bois, tout simplement.
Alors, c'est quoi les chèvres en bois?
On fait un croisillon en bois qui permet de tendre la ficelle, la corde, pour pouvoir remonter le menhir. Donc, des choses qui sont assez simples pour des monuments de petite taille. Et sinon, il y a toute une technique de rampe, en fait, qui permet de monter les pierres, les faire descendre le long des rampes. On enlève la rampe et puis le menhir est dressé. Enfin, voilà, il y a plein.
Ça a l'air tellement simple quand on vous écoute. Allez, hop, c'est fait tout de suite.
Je le ferai pas, personnellement, mais. Ouais.
Parce qu'on parlait de 300 tonnes quand même tout à l'heure.
Ça concerne, alors quand c'est des petits blocs, c'est assez simple à mettre en œuvre. Il y a eu plein d'expérimentations qui ont montré qu'un petit groupe pouvait le faire.
On a reproduit les choses.
On a tenté de reproduire les gestes de l'époque.
Tenter de reproduire, c'est pas si simple.
Non, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas comment ça a été fait. Voilà, pour les monuments les plus importants, effectivement, il faut beaucoup d'hommes. Et c'est ce qui fait la richesse du monument et c'est ce qui donne son statut aussi dans la société du néolithique. Voilà, plus il y a un investissement fort de la population, plus la personne qui fait ériger le monument a un statut fort dans la société.
Mais vous disiez tout à l'heure, enfin, si je ne me trompe pas, Olivier Agoguet, qu'il y avait aussi une partie souterraine de certains de ces mégalithes. Alors comment ça se passe dans ces cas-là? On recouvre de terre une fois que c'est érigé?
Alors oui, dans la famille mégalithe, il y a beaucoup de choses. Alors pour ce qui est des pierres dressées, c'est l'inverse d'un iceberg. Hein, l'essentiel est hors sol, donc ils sont simplement implantés dans une petite fosse qui permet de le faire basculer et de le maintenir. Mais 90 à 95% du menhir est hors sol. Par contre, on a des éléments d'architecture interne qui sont parfois des très gros blocs de pierre. Hein, on imagine le dolmen avec sa table et ses piliers. Donc ça, ce sont des architectures de pierre qui sont bâties avant qu'on les recouvre de terre. Donc on implante les éléments de pierre et ensuite on vient le recouvrir. Donc les techniques architecturales, elles sont plausibles, comme disait Cyril, on les connaît pas avec certitude puisque encore une fois on n'a pas de témoignage direct, mais on a des techniques plausibles qui permettent de reproduire la construction de ces monuments. Là où jusqu'où on n'est pas allé, c'est effectivement redresser un géant comme le grand menhir de Locmaria-Ker, où là c'est vraiment un chantier
surtout
colossal.
Surtout que les pierres à l'époque, elles étaient vraiment sur place ou elles pouvaient être déplacées aussi sur des kilomètres.
Alors les deux existent. Pour ce qui est de Karnak, c'est vraiment du circuit court. Hein. La roche était sur place et elle a été extraite sur place et dressée à proximité immédiate. Et encore une fois, on revient au colosse du grand menhir de Locmaria-Ker, qui lui, par contre, a été déplacé sur plusieurs kilomètres et en traversant des bras d'eau. Donc c'est vraiment le témoignage d'une société extrêmement organisée.
Et comment on traverse un bras d'eau avec 300 tonnes ?
Probablement avec des barges énormes. Ce qui a été fait en Égypte hein, pour déplacer les obélisques. Donc on est probablement dans le même type de chantier qui est vraiment le témoignage d'une société extrêmement organisé, et c'est un projet architectural qui est pensé du début à la fin.
Fascinant.
Autre question, Benoît sur franceinter.fr toujours, on ne sait pas l'utilité donc de ces monuments, mais est-ce qu'on sait pendant combien de temps il y a eu de l'activité autour ? On sait ça, Cyril Marcignac ?
C'est pas grave. Ça dépend quel type de monument. Voilà. Pour ce qui est des stèles, on a plein de questions. Pour ce qui est des mégalithes, les tombes, là, on sait à quoi ça a servi. Ça a servi de tombe. Il y a de la vie autour, ça, c'est sûr. Parce que lorsqu'on fouille un peu autour de ces monuments, hein, pendant très longtemps, c'est quand on est à fouiller le monument lui-même, voire même des fois que sa chambre. Mais dès qu'on a fait des fouilles un peu larges autour, on a retrouvé des traces de foyers, et dont les datations C14 ont montré qu'on avait une occupation qui pouvait être assez longue.
Au carbone 14, si vous pouvez. Au C14.
Voilà. mais alors, plusieurs années, est-ce que ça peut aller de génération en génération ? La datation, par exemple, elle fait quelle...
On peut avoir des occupations très longues autour des mégalithes.
Mais très longues, c'est quoi ? C'est combien ?
À plusieurs millénaires.
Ah oui, d'accord.
On peut avoir aussi une fréquentation de la chambre sur plusieurs millénaires. Lorsque les monuments sont très bien conservés et sont encore accessibles, on a un cas normand qui est celui de Fontaine-l'Armignon, où les chambres sont réinvesties à l'époque romaine.
Et on trouve des ossements, justement,
On trouve des ossements quand on est en domaine sédimentaire, donc quand on est en Normandie ou quand on descend vers la Vendée, par exemple.
Ouais. Chez les Bretons, c'est plus compliqué.
C'est plus compliqué en Bretagne.
Olivier Goguet, pourquoi c'est plus compliqué en Bretagne de trouver des ossements ?
Eh bien oui, malheureusement, on a des conditions de conservation qui sont très difficiles. Il ne nous reste que le plus résistant, donc essentiellement la pierre, parce que le sol, le substrat rocheux breton est granitique et naturellement acide, et donc il accélère la décomposition de tous les matériaux périssables, donc ossements, bois, végétaux, tout ça a disparu. Donc évidemment, on est obligé de comparer avec les territoires voisins, comme la Normandie, où les ossements sont mieux préservés.
Bon, on a Thierry qui nous fait une hypothèse. Pour moi, les alignements de Karnak, je vous la lis, vous direz ce que vous en pensez. Hein. Les alignements de Karnak seraient des pierres dédiées aux défunts. Chaque alignement correspondrait à une lignée de tribus qui se donnaient rendez-vous annuellement. Ils transportaient peut-être même ces pierres pour représenter les anciens décédés dans l'année écoulée. Qu'en pensez-vous ?
C'est une hypothèse intéressante et moi j'accueille bien volontiers toutes les hypothèses qui sont émises. La difficulté, c'est la preuve archéologique. Et en fait, on n'a pas de finesse archéologique suffisante pour déterminer, par exemple, si ces alignements ont été construits par une grande population dans un temps assez court ou si ça s'est étalé sur un temps très long où, effectivement, on dressait une ou quelques pierres à l'occasion d'événements. On n'a pas l'élément matériel qui permet de le confirmer aujourd'hui.
Mais vous laissiez entendre, Cyril Marcigny, qu'il y avait un lien quand même avec le statut social. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que le menhir géant de Locmaria-Ker était dédié vraiment à une personnalité éminente d'un groupe ou pas ?
Une personnalité ou un groupe d'individus, là on peut pas savoir à nouveau, mais très clairement quand il y a un projet architectural, comme l'évoquait Olivier, c'est qu'il y a quelque chose de pensé sur le long terme, et tout ça, ça vaut, c'est de l'énergie humaine, c'est de l'argent, pour prendre un terme actuel, et donc la personne qui pense en fait ce projet, ou ce groupe qui pense ce projet, décide de mettre quelque chose... qu'il met en valeur dans le cadre de la lecture du territoire, puisque le monument, il devait se voir à des kilomètres à la ronde.
Marie Bourche, il y a encore beaucoup de choses à découvrir, justement, du côté des gravures, par exemple, ou des dessins, des choses qui sont difficiles à voir, encore une fois, à l'œil nu, mais que les technologies vont permettre peut-être de déceler.
Oh ben, j'espère qu'il y a encore plein de choses à découvrir. C'est un peu, l'objectif de la recherche, de toujours essayer de découvrir de nouvelles choses. Les nouvelles techniques, elles permettent effectivement de voir des choses qu'on ne voyait pas avant et de voir plus dans le détail en fait également.
On va se retrouver dans un instant, encore quelques questions. Et puis, un petit sujet d'écologie, quand même, sur la surfréquentation de sites comme Carnac.
Il y a 3 millions d'années que je dormais dans la tourbe, quand un méchant coup de pioche me trancha net le col et me fit effectuer une gracieuse courbe, à la fin de laquelle je plongeais dans le formol. D'abord on a voulu me consolider la face, on se mit à me brosser mâchoire et temporale, suivi d'un shampoing au bichromate de potasse, puis on noie une faveur autour de mon pariétal. Du jour au lendemain, je devins une vedette, journaux, télévision, y en avait que pour moi. Tant et si bien du reste que les autres squelettes, se jugeant délaissés, me battaient un peu froid. Enfin les scientifiques, suivant coutume Zeus, voulant me baptiser de par un nom latin, m'ont appelé Pithecanthropus Erectus. Erectus, ça me va bien, moi qui étais chaud la fin. Et ces messieurs savants, à bottines et pince-nez, sur le vu d'un pitos ou d'une prémolaire, confirme que je possédais de sacrées facultés qui me différenciaient des autres mammifères. Ils ont dit que j'étais un virtuose du gourdin qui assommait bison au roc et bonne fortune, que j'étais drôlement doué pour les petits dessins de Vénus Callipyge au téton comme la lune. Ils ont dit que je vivais jadis dans une grotte. Ils ont dit tellement de choses, tellement de trucs curieux. J'étais couvert de poils et que j'avais pas de culotte, alors que j'habitais un pavillon de banlieue. J'étais comme tout le monde, pétri de bonnes manières. Tous les dimanches matins, je jouais au tiercé. Je portais des cols durs et des bandages hernières. C'était avant la guerre, avant que tout ait sauté. C'était voilà maintenant, bien 3 millions d'années. Vous n'avez rien à craindre, y a plus de retombées.
Ah oui, donc ça c'était bien avant les mégalithes, l'homme fossile, c'était Serge Reggiani sur France Inter. Avec nos invités, on parle de Carnac en particulier, Olivier Agoguet. Est-ce qu'il y a un problème aujourd'hui précisément avec la fréquentation? Parce qu'évidemment on aime aller voir ces mégalithes, mais est-ce que ça pose aussi un problème pour le site?
Alors, c'est pas en soi un problème, mais ça impose quand même des mesures de régulation, de maîtrise des flux, puisque ces monuments, malgré tout, bien qu'ils soient en pierre, sont fragiles et subissent la pression.
Donc il faut les préserver.
Donc il faut trouver des méthodes pour réguler l'accès au public et maîtriser les flux. C'est ce à quoi on travaille pour organiser les choses.
On a justement Agnès qui nous écrit à l'instant, habitant de Carnac. Je peux vous dire que nous ne sommes qu'en mai et que la surfréquentation a déjà commencé.
C'est vrai. Bon.
Voilà.
Mais il faut quand même les accueillir avec sourire.
Hein, effectivement, ce sont des monuments. Bah, Carnac, c'est unique au monde, donc évidemment, ouais. tout le monde a envie de venir voir ça, mais ça implique que ce soit géré, tout simplement.
Autre question de Patrice, qui nous écrit à côté de Fontaine-sur-Marne, à la limite Meuse et Haute-Marne, est érigé le très beau et unique menhir de la Haute-Borne. Comment expliquer de tels mégalithes isolés, Cyril Marcigny?
En fait, ils ne sont peut-être pas isolés à l'époque, c'est surtout ça qu'il faut voir. C'est un peu comme tout ce qui concerne le bassin sédimentaire. Dès qu'on n'est plus sur du granit, mais sur de la roche calcaire ou de la craie, les mégalithes, c'est une bonne ressource pour faire des linteaux de fenêtres, de portes, de cheminées.
Ah.
Et donc, on a une exploitation dès l'époque médiévale de tous ces monuments pour faire de la maison, quoi. C'est le cas aussi des mégalithes, des cairns. Hein, voilà, la plupart sont exploités en carrière, tout simplement.
Ce qui est incroyable et qu'on apprend aussi dans le documentaire, c'est qu'on retrouve des objets comme à Saint-Michel, par exemple, qui viennent de très très loin, du Piémont en Italie. C'est 850 km et on les retrouve là, en Bretagne. Donc ça veut dire qu'il y a eu des déplacements de population à l'époque sur des distances aussi importantes.
Alors des déplacements d'objets, donc amenés par des...
Humains.
Par des gens, enfin des systèmes d'échange qui ont véhiculé ces objets sur des très grandes distances. Et ce sont des objets de prestige, hein, donc qui sont venus accompagner les défunts dans ces grands tombeaux.
Par exemple,
des grandes lames de hache en jade, donc qui viennent effectivement du secteur du Mont Bégaud dans les Alpes italiennes. Donc le jade, une roche verte qui est célèbre et qui est immédiatement identifiable et qui est un matériau précieux, qui est là aussi le témoignage de la force d'attraction de ce territoire de Carnac à cette époque.
Mais sauf qu'on ne le savait pas, il n'y a pas de tourisme de l'Italie vers Carnac il y a 7000 ans.
En tout cas, il y avait des réseaux de circulation et d'échange qui ont véhiculé ces objets sur ces grandes distances.
Ça, c'est quelle époque d'ailleurs? Parce que je dis 7000 ans, mais c'est peut-être un peu plus récent.
Effectivement, ce qui est du tumulus Saint-Michel, c'est les premières phases, donc on est autour de 4700 ans avant Jésus-Christ.
Cyril Marcini, il n'y avait pas d'office du tourisme à l'époque
hein. Non, mais c'est du jade. Hein, la jadéite et les éclogites du secteur du Mont-Viseau ont vraiment arrosé une partie de l'Europe de l'Ouest, à un moment où on va plutôt utiliser l'or, d'ailleurs, dans l'Est de l'Europe. Hein. Donc c'est un matériau qui est prisé. C'est ce que dit Olivier, c'est pas les gens qui se déplacent, hein, c'est vraiment, c'est des choses qui sont colportées de main en main et qui arrivent jusqu'en Angleterre, hein, puisqu'on a des haches de ce type-là jusqu'en Angleterre.
Allez, une dernière question pour vous, Marie Wurtsch. Ilan nous écrit, pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas plus à l'école que les menhirs sont gravés? C'est magnifique de savoir que les humains s'exprimaient déjà. Est-ce que vous aimeriez qu'on le sache un petit peu plus?
Oui, alors, moi je suis enseignante maintenant, donc j'essaie de faire mon travail aussi de ce côté-là, justement en communiquant et en expliquant un petit peu que ça existe.
Bravo en tout cas pour l'initiative, et puis on peut dire un petit mot quand même de ce musée de la préhistoire de Carnac. On peut voir d'ailleurs les objets dont nous parlons, les haches en jade.
Les grandes lames en jade sont visibles au musée de la préhistoire. On a la chance à Carnac d'avoir pu maintenir les collections issues de la fouille de ces monuments sur le territoire. Donc on peut à la fois voir les monuments et à la fois venir au musée pour avoir une vision complète de ce qu'était ce phénomène mégalithique.
Il y aura un nouveau musée aussi qui est en préparation. Hein.
Voilà, la ville de Carnac construit un nouveau musée, ouverture à l'horizon 2025. Un musée agrandi en raccord avec l'ambition patrimoine mondial du territoire.
Voilà, exactement. Ça, ce sera peut-être un peu avant d'ailleurs pour 2025 si l'UNESCO valide. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois pour ces explications. Et je vous renvoie donc sur le documentaire Carnac sur les traces du royaume disparu demain soir sur France 5.